Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Fred, j'ai une petite question pour toi.
Vas-y donc.
As-tu ta carte Petro-Point?
Non, c'est pas ça. J'aime pas ça, moi, mettre du gaz. Ça m'énerve.
Pourtant, de par notre métier,
on est obligé.
Pas qu'on en met plus, mais on débourse davantage ces temps-ci pour en mettre. En fait, moi, dans le contexte actuel, je te dirais que c'est le contraire. Parce que jamais j'aurais essayé autant de véhicules électriques ou hybrides branchables.
Je suis sur une lancée là, de véhicules électriques.
J'en ai 7 en ligne.
Ouais. Ça va aller vers là.
Je suis content d'avoir ma borne de recharge à la maison.
Mais ça demeure que pour la grande majorité des automobilistes, le passage à la pompe est encore une obligation. Puis je sais pas si tu as remarqué, Antoine, mais depuis quelques semaines, quelques mois, pas donné le litre de l'essence.
J'ai pas remarqué. Non, mais sans blague, là, je voulais discuter du prix du carburant avec quelqu'un qui se tient peut-être un peu plus au fait que nous, des raisons qui expliquent cette hausse du coût du carburant et de la baisse récente. Là, on parlait d'une baisse record, ça m'a fait bien rire, là, parce que une baisse record du prix du litre d'essence quand ça a baissé de 10 sous, il me semble qu'on a déjà vu ça, des fluctuations de 20-25 cents en deux semaines il y a quelques années, mais enfin bref. On est en compagnie de quelqu'un que tu connais bien, Jesse Caron, qui est expert au CAA Québec. Et pourquoi CAA Québec? Ben, c'est parce que le CAA émet souvent des communiqués en rapport avec le prix de l'essence. Salut, Jesse.
Salut, Antoine. Salut, Fred.
Salut, Jesse. Ben oui, Antoine le disait, le CAA Québec émet des communiqués parfois par rapport au prix de l'essence. Ça a été le cas un peu plus tôt cette semaine où, CAA Québec s'est dit un peu déçu de la baisse du prix de l'essence qu'on attendait peut-être un peu plus drastique que ce qui a eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Jesse, dans ce cas-ci?
Bien, en fait, souvent, quand les indicateurs pétroliers sont à la hausse, puis vous le savez, ça fluctue énormément, les pétrolières, les stations-service, ça va vite pour qu'ils nous refilent, hein, à nous, les consommateurs et automobilistes, ces hausses-là. Mais on remarque que...
Tu veux-tu un 8? Tu veux-tu un 9?
Des belles références aux vieilles pubs.
Ouais, c'est ça.
Ça ressemble à peu près à ça.
Ouais.
Mais quand ça baisse, par contre, c'est beaucoup plus lent. Hein? On voit l'effet de ces baisses-là, des indicateurs, arriver beaucoup plus lentement et de façon beaucoup plus progressive, pour utiliser un euphémisme. Alors, c'est un peu ça qu'on a remarqué cette semaine. Là, les marges au détail, là, c'est un indicateur clé qu'on calcule, nous, à CAA Québec, là, à l'aide de plusieurs données qu'on croise et qu'on additionne. Et grosso modo, là, cette marge au détail-là, ça, c'est l'argent qui va dans les poches des stations-service, donc des exploitants de stations-service. Puis on s'entend que, tout comme pour un concessionnaire qui vend des véhicules, c'est normal qu'il se fasse un petit profit pour faire rouler son entreprise, puis à un moment donné aussi avoir un petit salaire à la fin de l'année, un petit ou un gros, là, ça dépend desquels. Cette marge au détail-là, c'est normal qu'elle existe, là. On parle d'une marge moyenne annuelle provinciale de 5,5 cents le litre.
Mais là, ce qui n'est pas tant que ça, là.
Non, c'est pas tant que ça, parce que pensez aux édifices, pensez aux stations-service à 12 pompes, les gros dépanneurs. Encore une fois, je fais le parallèle avec les concessionnaires, parce qu'on connaît ce milieu-là, mais qui doit se construire des édifices là à 3-4 millions et plus. Bon, mais dans ce cas-là, c'est peut-être pas aussi cher construire une station-service, mais il y a des frais d'exploitation, il y a de la main-d'œuvre à payer, c'est tout à fait normal.
Des normes environnementales à respecter, puis tout ça. Puis on vend moins de cigarettes qu'avant, fait que faudrait faire de l'argent sur l'essence un peu.
c'est ça, exactement. Donc, à 5,5 cents le litre, c'est à peu près la moyenne, acceptable si on veut. Mais là, ce qu'on voit là, dans le cas de Québec notamment, la région où je mets de l'essence de façon hebdomadaire, parce que c'est la mienne, donc 15,7 cents le litre actuellement au prix affiché. Donc, on est à 3 fois à peu près la marge moyenne annuelle.
Mais pour calculer cette marge-là, Jesse, vous vous basez sur quoi? Sur le prix du baril de pétrole? Comment ça fonctionne?
Ah ben c'est plus que ça. En fait, on établit tous les jours, là, j'ai une collègue qui établit tous les jours...
Quotidiennement?
Quotidiennement dans InfoEssence.
OK.
Dans notre outil là, pour déterminer si le prix est réaliste ou non là, que les automobilistes paient à la pompe. Donc, on regarde l'indicateur du coût d'acquisition. Et ça comprend le prix à la rampe de chargement. Je ne veux pas être trop technique, mais je vais quand même le dire. Le prix à la rampe de chargement, qui, lui, est influencé par les fluctuations du coût du baril de pétrole. On ajoute à ça le coût du transport,
ouais,
la taxe provinciale sur le carburant, la taxe fédérale d'assises, les taxes sur le transport en commun dans le Grand Montréal, puis en Gaspésie et de la Madeleine, puis TPS et TVQ par-dessus tout ça. Donc, on a donc avec tout ça l'indicateur du coût d'acquisition. Ensuite, on regarde le prix à la pompe, puis on fait une simple soustraction.
OK.
Donc, ça, c'est ce qui nous donne la marge au détail. Là, donc, on additionne tous les intrants, si on veut, pour en arriver à ce montant-là.
Tu parles d'une marge de profit de 5 à 15 sous le litre en moyenne. Moi, j'ai deux questions pour toi. Premièrement, j'ai constaté que le litre d'essence super, qui se vend de plus en plus, parce que de plus en plus de voitures qui requièrent de l'essence super, bien là, tu as un écart de prix entre le litre d'ordinaire et du super, des fois de 23-25 sous le litre, alors que si tu vas en Ontario ou en au Nouveau-Brunswick, bien là, c'est 8, 10, 12 sous. Est-ce que ça, c'est aussi calculé ou considéré par le CAE?
Nous, on regarde le prix de l'essence ordinaire. Donc, on okay. est tout à fait conscient que oui, c'est cet écart-là s'est grandi avec les années. Puis on n'a pas vraiment reçu d'explication. Là, t'sais, on va nous dire là, du point de vue là, des pétrolières puis de l'industrie qu'il y a plus d'additifs, qu'il y a plus des produits plus technologiques qui rentrent dans la composition, mais on s'entend que quand on compare avec les autres provinces, oui, c'est sûr que l'essence n'est pas raffinée de manière égale. Là, c'est-à-dire que nous, ici, dans l'est du pays, on reçoit notre carburant. Les raffineries s'approvisionnent beaucoup de carburants légers qui s'apparentent au baril là, du système Brent là, en Europe, tandis qu'ailleurs, en Amérique du Nord, c'est plus le WTI, donc c'est une autre sorte, si on veut, de pétrole, d'autres endroits où on s'approvisionne. Donc, peut-être que ça peut jouer un rôle, mais encore là, effectivement, là, il y a un grand, grand écart là, qu'on a vu augmenter. Puis, vous savez, comme moi, quand on a des véhicules d'essai avec qui exigent du super, là, on a souvent le goût de pas en mettre, mais bon, il faut respecter.
Bien, il y en a beaucoup. Aussi, autrefois, c'était peut-être réservé à des véhicules plus exclusifs, mais maintenant, mettre du super, c'est quelque chose d'assez commun pour bien des automobilistes. Là. Fait qu'effectivement, la différence est encore plus intense. Ah oui, la litre d'essence super, c'est cher. Là,
ben,
c'est...
On parle de au moins 15-20% plus là, au niveau du coût. Bon, l'autre question que j'ai pour toi, là, et là, c'est sûr que tout le monde va faire « ben oui, ça c'est évident ». Les longues fins de semaine, le congé du temps des fêtes, les vacances de la construction, quand le litre d'essence augmente drastiquement. Est-ce que ça, c'est dû à la fluctuation par pur hasard de la hausse du baril de pétrole ou est-ce que c'est juste notre imaginaire ou est-ce que c'est juste les commerçants qui décident de dire « bon, ben, on va en profiter ».
Ben, en fait, on a observé ça, on regarde ça de près, puis on l'entend souvent, ce commentaire-là, puis en fait, il n'y a pas une corrélation directe. Oui, ça arrive des fois, puis oui, c'est tentant de dire, ben, ils en profitent, là, ils savent que tout le monde va être sur la route,
ouais.
Mais c'est pas systématique non plus. Donc, ça dépend des indicateurs pétroliers, c'est vrai, puis des fois, il y a un léger délai avant que ça s'applique, un délai qui est plus court dans le cas des hausses que des baisses, on l'a dit tantôt.
Ouais, ouais.
Mais effectivement, ça peut arriver que il y a des mouvements, mais faut savoir, puis on l'observe aussi que dans les marchés, là, tout le monde se suit de très, très, très près. Donc, c'est pas une station qui va décider ça. En elle-même, parce qu'elle va être hors circuit si elle fait ça. Donc, c'est vraiment là, des mouvements qui dépassent un peu les frontières. Puis souvent, ben ça va, c'est parce que les marchés vont s'enflammer ou il va y avoir une hausse effectivement du coût du pétrole brut parce que tout le monde le sait que l'été, il y a une plus grande demande. Tout le monde le sait sur les marchés, là, puis ça dépasse les stations-service, mais sur les grands marchés, tout le monde le sait que à Thanksgiving aux États-Unis, ben il va y avoir du monde sur la route. Même chose à Noël ici. Donc, ça peut arriver, mais c'est pas systématique. Puis on peut pas faire la corrélation directe là. On peut pas généraliser, mais on l'a déjà observé, c'est vrai.
Là, bon, Jesse, on a remarqué une baisse quand même dans les derniers jours, assez timide. J'ai lu avec intérêt le communiqué que vous avez présenté. Ça a été couvert par nos médias aussi. C'est quoi l'impact d'un communiqué comme ça? À quoi vous vous attendez en faisant une communication comme celle-là?
Ben nous, nos membres, c'est en grande majorité des automobilistes qui, en grande majorité, comme tu le disais tantôt, vont passer à la station-service une ou plusieurs fois par semaine. Donc, on veut avec ça soutenir, on veut les appuyer, on veut, dans le fond, leur montrer que oui, ces gens-là, le public ne s'imagine pas des choses quand ils voient que effectivement, le prix est élevé par rapport à des baisses qui se concrétisent beaucoup moins rapidement qu'on le voudrait. Est-ce qu'on va faire changer le cours de l'industrie avec ça?
Parce que vous n'avez aucune influence, là, même si c'est a beaucoup, beaucoup de membres, l'impact réel d'émettre un communiqué comme celui-là sur l'industrie pétrolière est nul, là, j'imagine.
Non, l'impact réel, il n'y a pas d'impact direct, si on s'entend là-dessus. Mais il faut le voir, là, il faut se projeter, il faut le voir à plus grande échelle, parce qu'on sait aussi que le gouvernement suit ça, la Régie de l'énergie également. Il y a des consultations qui se produisent, qui ont lieu là à tout bout de champ, si on veut, sur diverses façons de plafonner. Quand on émet des communiqués puis des prises de position comme ça, c'est pour s'outiller dans le fond pour d'éventuelles consultations où là on aurait une voix au chapitre.
Ouais.
Mais c'est sûr que du jour au lendemain, ça ne changera pas grand-chose quand on va aller à la station-service.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon de conscientiser l'automobiliste là-dessus dans cette époque où, évidemment, ben là, on est en plein tournant vers l'électrification des transports? Puis ça m'amène à te demander aussi, j'imagine que vous devez avoir de plus en plus de demandes d'informations sur des véhicules hybrides branchables ou 100% électriques à votre service conseil. Est-ce que vous avez remarqué ça dans les derniers mois?
Ah, tout à fait, tout à fait. Nos agents répondent de plus en plus à des questions. Les gens s'intéressent à ces modèles-là. Ça devient une réalité tangible, accessible pour plus d'automobilistes. On le voit aussi quand on va dans les salons là, des véhicules électriques où tu as prononcé une conférence, Antoine, on en faisait nous autres aussi à Montréal puis à Québec. Puis les gens, là, ils nous posent des questions, ils s'intéressent, ils s'assoient puis ils nous écoutent vraiment avec attention. Nous, notre rôle là-dedans, ça a toujours été, puis on va continuer de le faire comme ça, ça a toujours été d'offrir une image réaliste, un portrait réaliste de ce à quoi les gens peuvent s'attendre quand ils vont s'acheter un véhicule électrifié. Mais c'est sûr qu'une chose qu'on leur dit, c'est que la façon de rentabiliser ça, c'est vraiment un véhicule électrique, c'est en économisant sur l'utilisation. Oui, il y a l'entretien, oui, il y a d'autres incitatifs, mais c'est vraiment en l'utilisant, en roulant avec notre véhicule électrique, en économisant sur l'énergie, qu'on va le rentabiliser. Donc oui, effectivement, quand on voit des prix élevés comme ça, on va dénoncer quand la baisse n'arrive pas assez rapidement. On va dénoncer aussi quand ça monte peut-être un peu trop vite. Mais il faut lire en sous-texte, effectivement, que si on veut se débarrasser de cette dépendance-là, ben il faut se tourner vers l'électrique. Des fois, le cœur veut moins, là, hein, on aime encore ça.
Des fois, c'est le cœur, des fois, c'est la raison aussi des gens qui, bon, ont à parcourir des grosses distances puis qui sont pas prêts encore à faire confiance au réseau de bornes de recharge rapide. Peu importe la raison, il y a des gens qui décident de rester avec leur véhicule à essence. Est-ce qu'il y a des façons pour ces gens-là d'éviter ces moments-là où l'essence est plus chère? Est-ce que vous avez chez CA peut-être, je sais pas, des règles, des conseils d'éco-conduite ou peut-être des moments dans la semaine où c'est plus intéressant de faire le plein?
Des moments dans la semaine, c'est très variable.
Ouais,
c'est très variable. Encore une fois, on peut pas établir de ligne claire là-dessus. On l'a déjà voulu le faire. On regarde, mais c'est pas. Ce serait mal avisé que de dire allez-y le mardi, mercredi, c'est toujours moins cher que le vendredi ou le lundi. C'est pas tout le temps le cas.
Ouais, donc, c'est ça.
Mais effectivement, oui, des conseils d'éco-conduite, c'est sûr qu'on en a toujours. À la clé, là, hein, accélérer moins vite, se laisser porter pour essayer de réduire les arrêts-départ en ville, respecter les limites de vitesse. Bon, c'est sûr que c'est toujours là, ces conseils-là. Mais ça va toujours demeurer là, une dépendance qu'on a à ça. Puis on voit que même quand on pense avoir un répit, ça ne dure jamais très, très longtemps. Et ben l'autre conseil qu'on peut donner, c'est achetez pas aux consommateurs, c'est achetez-vous un véhicule pour vos besoins quotidiens. Si vous avez besoin 3-4 fois par année là, de transporter des choses plus encombrantes, achetez-vous pas un 3 rangées ou une camionnette avec un 5,7 là, un EMI là, nécessairement. Là, vous allez payer toute l'année pour de l'essence pour rien, autrement dit.
Aussi bien louer un gros véhicule quand on en a besoin.
Ben oui. C'est ça. Puis c'est sûr qu'on aime tous l'avoir à la porte quand on en a besoin. Là. Moi, je conduis personnellement mon véhicule, c'est un VUS 3 rangées d'une dizaine d'années. Puis quand j'ai besoin d'aller à l'éco-centre ou chez Renault Dépôt, puis que je peux rentrer quelque chose de 10 pieds dedans sans en louer un, je suis content. On s'entend là-dessus. Mais je l'utilise rarement parce qu'on a la chance d'avoir des véhicules qu'on essaie d'une semaine à l'autre. Mais pour les consommateurs... l'ensemble des consommateurs, le grand public, mais avoir un véhicule qu'on traîne à l'année avec une consommation d'essence plus élevée, ben c'est à un moment donné, on finit par payer pour, là.
Ah, c'est sûr. Bon, l'autre truc, peut-être que je vais aborder avec toi, et ça, je ne sais pas si le CAA a fait des études là-dessus, et tu mets de l'essence plusieurs fois par semaine, donc tu dois le constater toi aussi. Moi, j'arrive à la pompe, là. Je mets le pistolet dans le tuyau de remplissage du véhicule et je commence le remplissage. Et des fois, ça va monter jusqu'à 1$ sur la pompe avant même qu'il y ait une goutte qui sorte du fusil. Parce que la programmation du fusil est inégale d'un endroit à l'autre. D'autres fois, ça part très vite. D'autres fois, bien, je le sais que je viens de me faire littéralement voler 1$. Est-ce qu'il y a eu des études là-dessus sur certaines stations-service qui volontairement programment de cette façon-là? Parce que je sais que ça a déjà été discuté. J'ai déjà vu des trucs par rapport à ça dans les médias. Je pense que JE avait déjà fait quelque chose là-dessus, si je ne m'abuse, il y a plusieurs années. Mais, tu sais, c'est un problème, là. On a l'impression qu'on a mis, je sais pas moi, 30 litres dans notre véhicule, mais en réalité, on a mis 28,8, contrairement à ce qu'on indique sur la pompe, là.
Ben, théoriquement, tout ça est supposé d'être mesuré, calibré là, selon les protocoles de mesure Canada.
Mm-hmm.
Est-ce que collusion, on en a déjà vu dans la fixation des prix,
mm-hmm. Hein, ouais.
On en a déjà vu. Là, on dirait que pour le phénomène que tu mentionnes, il n'y a pas eu, en tout cas, moi, j'ai pas mémoire là de quelqu'un qui s'est fait prendre et qui a été mis à l'amende ou encore qui a reçu des peines.
Moi non plus. Là.
C'est ça. Donc, est-ce qu'il y aurait un filon à étudier là, est-ce qu'il y aurait une enquête à faire par des instances justement gouvernementales? Peut-être il y aurait quelque chose à vérifier là. Est-ce que c'est plus difficile à prouver? Est-ce qu'on nous répondrait ben c'est calibré de cette façon-là, mais vous l'avez de toute façon? En tout cas, il y aurait quelque chose à fouiller là, mais non, en fait, nous, on n'a pas étudié ça plus en profondeur là. On n'a pas une équipe d'inspecteurs qui peut se déplacer pour faire ça, malheureusement.
Avant qu'on se quitte, Jesse, j'aimerais ça t'entendre peut-être sur un regard peut-être plus long terme sur le prix de l'essence. Je ne sais pas si vous avez des indicateurs qui peuvent permettre de savoir si, bon, est-ce que ça va rester stable pour les prochains mois? Est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse un peu plus marquée ou voire même à une hausse encore plus radicale que ce qu'on a connu depuis l'année dernière?
Parce qu'on sait que les gens achètent un véhicule en fonction du prix à la pompe aujourd'hui.
Ben oui.
Non pas au prix qui était vendu hier ni la semaine prochaine. C'est vraiment... Ils regardent la pompe aujourd'hui. Ouais. Ça a toujours été comme ça.
à fait. Mais on n'a pas de boule de cristal. C'est,
non?
Vous le savez, hein, non, ben non, pas plus que les autres. Mais c'est les indicateurs pétroliers, là, les indicateurs là, du coût du baril qui sont tellement volatiles. C'est presque impossible de faire des projections. Mais ce qu'on peut voir, c'est que tu sais, il y a un mouvement quand même constant. Là. C'est sûr qu'il y a des montagnes russes là-dedans, mais il y a un mouvement constant à la hausse depuis quoi, 10, 15 ans. Puis c'est, tu sais, on finit toujours par payer un petit peu plus cher, un petit peu plus cher. Là, le pétrole est de plus en plus difficile à extraire dans certains marchés. Donc, là, il faut se fier peut-être davantage à l'importation, comme on l'a déjà fait, ou encore, c'est plus coûteux d'aller chercher le pétrole localement.
Ouais.
Mais d'un autre côté, la demande va diminuer à mesure qu'il y aura plus de véhicules électrifiés sur la route. Donc, est-ce que ça pourrait venir compenser ou atténuer ce mouvement-là, la hausse?
Peut-être. C'est ça.
Mais il y a toute la question aussi des propriétaires de véhicules électriques. Là, à un moment donné, eux aussi vont peut-être là, avoir à payer certains frais. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'y a pas de taxes supplémentaires.
Mais c'est sûr que ça va venir.
Donc, ça va venir, mais d'après moi, ça va être long. Ouais. Surtout ici au Québec, où on veut justement...
encourager l'achat des véhicules électriques.
La SAC émet des plaques vertes.
Mais quand la majorité des acheteurs auront des véhicules électriques, on s'en reparlera.
Ouais. L'objectif de la SAC, c'est d'avoir un maximum de plaques vertes sur la route. Mm-hmm. Puis même des fois, je pense qu'on déborde un peu. Là. Mm-hmm. J'ai vu quelques véhicules hybrides réguliers avec des plaques vertes.
Honda Insight, Porsche Cayenne, des trucs comme
trucs,
ça.
Tu fais, attends un peu, là, c'est pas un hybride branchable ou un 100% électrique, mais bon. Fait que l'idée, c'est d'en mettre de plus en plus. Fait que j'ai pas l'impression qu'on va commencer à taxer les électromobilistes, là, ce nouveau mot à la mode. Mais enfin, bref. Fait que ce que tu nous dis, c'est de garder encore un peu notre carte Petro-Point, mais... De mieux l'utiliser, finalement.
Gardez votre carte CAA aussi. Là. Ah! C'est payante aussi dans certaines stations-service, n'est-ce pas? Fait que regardez le programme aussi de rabais dollars, ça peut être intéressant. Mais oui, on va en avoir encore besoin pour un bout de temps, c'est sûr.
Parfait, Jessica.
Merci, Jessica.
Expert automobile chez CAA Québec. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Un grand plaisir. À la prochaine.
Salut, monsieur.